Vous écoutez, on lit pour vous.
Pour en finir avec le surtourisme, un dossier d'Alexandre Vigneault, paru le 25 août 2024 dans la presse. Faire face au ras-le-bol. Barcelone. Peut-on concilier les intérêts des touristes et des résidents? C'est le défi auquel ont fait face les architectes de la nouvelle Rambla, à Barcelone, célèbre avenue qui a été le théâtre d'une imposante manifestation contre le surtourisme le mois dernier. La capitale catalane est devenue un symbole du ras-le-bol ressenti par les résidents des centres historiques de certaines villes d'Europe. Les rues du quartier Gracia sont animées en ce vendredi soir de juillet. Plaça del Diamant, des bambins s'amusent dans une minuscule aire de jeu sous l'œil attentif de leurs parents. Plaça de la Virreina, dominée par l'église Santa Creu, ils sont nombreux à prendre l'apéro sous le soleil déclinant. Un peu plus loin, à la Plaça del Sol, des enfants courent derrière des ballons ou des cerceaux au milieu des touristes et des habitants attablés aux terrasses. Ici, la capitale catalane n'a pas l'air d'une carte postale, mais d'une ville européenne ordinaire, et Gracia, d'un quartier où des gens travaillent, sortent, se divertir ou rentrent à la maison après le boulot. Comme sur le plateau Mont-Royal, dans la petite patrie ou le Mile End. À un détail près, sous la surface, une colère gronde. Ici et là, des graffitis et des autocollants pestent contre les nuisances apportées par les visiteurs. Le tourisme tue les villes, voit-on sur une poubelle. Touristes, rentrez chez vous, semonce un graffiti. Assez, posons des limites au tourisme, dit une affiche invitant les citoyens à une manifestation le 6 juillet 2024. L'appel a été entendu. Ce jour-là, des milliers de personnes sont descendues au centre de Barcelone, envahissant sa plus célèbre avenue, la Rambla. Une démonstration de force, ponctuée de gestes de bon enfant, des manifestants ont symboliquement enfermé les touristes sur des terrasses ou dans des hôtels en utilisant des cordons de plastique et d'autres les ont arrosés avec des fusils à eau. Ce n'était pas la première fois que le tourisme était pointé par les citoyens à Barcelone, ni le seul endroit où les citoyens manifestent leur mécontentement. À Mallorca, principale île des Baléares, des manifestations ont aussi eu lieu en mai et en juillet 2024. Les résidents s'y plaignent notamment de ne plus avoir accès à leur propre plage et d'être envahis par des fêtards intoxiqués à l'alcool. Dehors, les résidents. Ces mouvements de foule témoignent d'un malaise réel et profond, estime Arnaud Bois-Hipla, architecte impliqué dans le réaménagement de la Rambla. Les gens ont l'impression de se faire expulser de chez eux, dit-il. La Rambla a déjà été un point de rencontre pour les Barcelonais. Elle ne l'est plus, constate-t-il. La désagrégation du tissu social des environs de la Rambla, l'architecte et urbaniste Itziar González Iviros l'a vécue aux premières loges. Elle a longtemps habité dans le centre de Barcelone, où elle possède toujours un appartement. Les changements ont commencé il y a plus de 30 ans, selon elle, lorsque la capitale catalane a commencé à se préparer à accueillir les Jeux olympiques de 1992. On a fait plein de choses qui sont très bien pour les Jeux, mais c'est aussi à cette époque que la mairie a fait cette alliance avec les hôteliers et les gens de la publicité, dit-elle. Les intérêts financiers ont commencé à prendre le pas sur ceux des résidents et mené à la détérioration de la vie dans le centre de Barcelone, selon elle, citant autant l'embourgeoisement des quartiers centraux que l'afflux de touristes venus faire la fête, l'émergence d'un marché pour les articles de contrefaçon, ainsi qu'un renouveau du commerce de la drogue et de la prostitution. Pour un projet citoyen, partisane d'une architecture sociale, Itziar González Iviros place les êtres humains au cœur de ses projets. Dans le cas de la nouvelle Rambla, ce souci ne passait pas seulement par la consultation des riverains, mais par une coopération citoyenne à part entière. On a réussi à avoir 500 personnes qui se sont engagées pendant 6 mois dans le projet, précise-t-elle. Convaincue que le bien commun n'existe que si la communauté elle-même existe, la directrice de la réfection de la Rambla avait aussi mis sur pied une assemblée citoyenne permanente qui devait avoir à l'œil le respect d'un équilibre entre tourisme et résidents pour en rendre compte à la mairie. Itziar González Iviros pense que, si on se contente de voter une fois tous les 4 ans et qu'on ne fait rien entre-temps, le pouvoir se met à travailler plus avec des lobbies et pas avec les citoyens. Ce qui s'est passé, c'est que la municipalité a décidé de réaliser la partie physique parce que le plan de réaménagement faisait consensus, mais ils ont réussi à éteindre la communauté, se désole-t-elle. La mise en place d'un espace critique incitant passants et visiteurs à réfléchir au tourisme et à son impact a lui aussi été mis de côté, précise Itziar González Iviros. Vous écoutez, pour en finir avec le surtourisme, un dossier d'Alexandre Vigneault, paru le 25 août 2024 dans la presse. Gérer la circulation. La Rambla a néanmoins été repensée en tenant compte des citoyens. On a fait une espèce d'ingénierie des fluides, résume-t-elle. La colonne vertébrale du projet était de faire en sorte que le flux de touristes arpentant la Rambla de bas en haut entrave le moins possible celui des résidents qui, eux, ne font que la traversée pour aller d'El Raval au Barri Gothique, les 2 quartiers qui bordent l'avenue. Arnaud Bois-Hipla raconte que la circulation automobile a été réduite, que les espaces piétons ont été élargis et que les guides faisant des visites de groupe ne pourront s'arrêter qu'à des endroits prédéterminés. Itziar González Iviros en parle comme de places d'où il est possible d'observer les édifices et d'autres points d'intérêt. Réaménager une avenue ne suffira pas à reconstruire le tissu urbain des environs de la Rambla pour le rendre plus accessible et agréable pour les voisins. Ici, comme dans les centres de quantité de villes ou de villages d'Europe prisés par les visiteurs, la nature de nombreux commerces a changé. Sur la Rambla et autour, bien des kiosques et des magasins qui offraient des produits ou services pour les résidents ont fait place à des boutiques ou faire des achats impulsifs de souvenirs, décrit Itziar González Iviros. Dans l'espoir de nourrir autre chose que le tourisme, les artisans de la nouvelle Rambla envisageait également d'utiliser les colonnes Maurice et autres espaces d'affichage disponibles pour faire la promotion d'activités significatives sur le plan culturel plutôt que de visites guidées, dit également Arnaud Bois-Hipla. Il n'était pas acquis au moment d'écrire ces lignes que cette idée allait se concrétiser. Selon Arnaud Bois-Hipla, l'idée n'est pas de faire la vie dure aux touristes, mais de canaliser le flux de touristes pour faire de la place aux résidents. la ville de Barcelone se dit sensible aux doléances des citoyens. Des documents, soumis à la presse par la mairie, détaillent une série de mesures visant à endiguer le surtourisme, dont des actions pour contrôler la location à court terme d'appartements. Le maire, Jaume Collboni, a par ailleurs répété ces dernières semaines qu'il mettra en place des mesures visant à récupérer, au bénéfice des citoyens, pas moins de 10 000 appartements actuellement utilisés pour de l'hébergement touristique. La location illégale fait aussi l'objet d'une lutte plus musclée dans la capitale catalane. Difficile retour en arrière. Luc Renaud, professeur associé au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, signale que le basculement d'une ville vers une économie touristique peut être rapide. Dubrovnik, prisé par les touristes européens depuis longtemps déjà, a notamment connu une explosion de popularité depuis que sa vieille ville a servi de décor à King's Landing de la populaire série Game of Thrones. Revenir en arrière, c'est extrêmement difficile. Ça peut prendre 10 ou même 15 ans pour retrouver un semblant de vie quotidienne, estime l'universitaire. D'où cette mobilisation citoyenne dans les centres historiques de plusieurs villes qui ont atteint un point de saturation en Europe, que Luc Renaud dit comprendre, puisqu'il ne croit pas tellement à l'autorégulation spontanée de l'industrie touristique, dont l'intérêt est au contraire d'attirer plus de visiteurs. C'est la résistance citoyenne qui va faire changer les choses, souligne-t-il. Les populations locales doivent se prendre en main et dire non. On ne veut pas que notre milieu de vie devienne un espace touristique. C'est la mobilisation des communautés qui permet d'ouvrir un dialogue avec l'industrie touristique. Source : Observatoire de tourisme de la ville de Barcelone. 15,6 millions. Nombre de touristes ayant visité Barcelone en 2023. La ville compte 1,7 million d'habitants et l'agglomération urbaine en compte 5,7 millions. 10 101, nombre d'appartements loués à court terme pour les touristes que la municipalité veut ramener dans le parc locatif résidentiel. 12,75 milliards d'euros, retombées économiques directes du tourisme dans la grande région de Barcelone. Le cas du Vieux-Québec. Le terme « surtourisme » ne fait pas partie du vocabulaire lorsqu'il est question du Vieux-Québec, quartier très prisé par les visiteurs. Ne souhaitant pas vivre les problèmes qu'on voit en Europe, ces acteurs du monde du tourisme et les résidents se concertent et arrivent à s'entendre. La chose a été mise au clair d'entrée de jeu par toutes les personnes interviewées par la presse pour ce reportage. On est en situation de surtourisme nulle part au Québec. Le terme « surtourisme » dérange visiblement. Il n'évoque plus seulement des lieux touristiques bondés, de moins en moins agréable à visiter, mais aussi la colère de citoyens qui se sentent dépossédés des espaces publics où ils vivent au quotidien. C'est le cas des centres historiques de quantité de villes en Europe, d'Athènes à Amsterdam, en passant par Prague, Venise, Lisbonne et plusieurs villes d'Espagne, dont Malaga, Palma de Mallorca et Barcelone. Selon Geneviève Quentin, PDG de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, AITQ, il n'y a pas de surtourisme au Québec. Ça n'existe pas. On n'est pas au même niveau de problème qu'en Europe et on ne veut jamais se rendre là, insiste Robert Mercure, directeur de Destination Québec Cité, DQC. Il y a des journées où l'achalandage est très important dans le Vieux-Québec, conviennent-ils. Mais le milieu touristique et les autorités restent à l'affût pour préserver la qualité de vie des résidents. Cette sensibilité des entités chargées de gérer le tourisme à Québec n'est pas apparue par magie. Les résidents du Vieux-Québec ont contribué à la faire naître. Ne souhaitant pas se retrouver dans une situation aussi critique qu'en Europe ou face à des coups d'éclat comme la manifestation survenue à Barcelone, ils se sont mobilisés, raconte Michel Masse, président du Comité des citoyens du Vieux-Québec, CCVQ. Vous écoutez, pour en finir avec le surtourisme, un dossier d'Alexandre Vigneault, paru le 25 août 2024 dans la presse. Une réflexion portée par les citoyens. Après s'être beaucoup battu contre les impacts négatifs du tourisme dans le passé, les résidents ont adopté une autre approche durant la pause forcée de la pandémie. En décembre 2021, avec d'autres partenaires, les membres du CCVQ ont organisé un colloque pour discuter des façons de faire du tourisme autrement dans leur quartier, très prisé par les visiteurs d'ici et d'ailleurs. Cette journée de réflexion a rassemblé une vingtaine de groupes communautaires et d'associations touristiques, dont l'administration portuaire, l'Association des hôteliers de la région de Québec, des gens d'affaires et le Bureau des grands événements de Québec. C'était la première fois que tous ces grands partenaires se réunissaient, souligne Michel Masse. Québec a accueilli 4 millions de visiteurs en 2023, en majorité du Québec, mais aussi 1,5 million de touristes venus d'ailleurs. Ce rassemblement a été le fruit d'un travail de longue haleine. En amont, le CCVQ avait rencontré individuellement chacun de ses partenaires pour amorcer un dialogue. Les résidents du quartier avaient aussi réfléchi de leur côté aux problèmes qu'ils constataient et à des solutions envisageables. Ces efforts concertés ont fait en sorte qu'au moment de l'ouverture du colloque, un certain consensus existait déjà quant à la nécessité de faire autrement dans le Vieux-Québec, assure le président du comité de résidents. Ce dialogue, aussi reconnu et apprécié tant à DQC qu'à l'AITQ, a porté ses fruits. Michel Masse raconte que le CCVQ est en communication régulière avec tous les grands événements qui se tiennent dans le cœur historique de Québec et qu'il a, par exemple, été consulté avant même la reprise des concerts à l'Agora du Vieux-Port de Québec dans le cadre de la Super Franco-Fête. Des discussions ont eu lieu au sujet des niveaux sonores et de la gestion de foule. C'est un grand succès, se réjouit Michel Masse. D'un seul concert à l'été 2022, l'événement est en effet passé à 10 spectacles cet été. Changer les mentalités. La concertation a donné lieu à des gestes très concrets, comme la piétonnisation d'un plus grand nombre de secteurs du Vieux-Québec, où l'accès en voiture est réservé aux résidents. Or, c'est la mentalité de l'industrie et de la ville de Québec face au tourisme qui se trouve transformée par ce dialogue, comprend-on. Soucieux de désengorger la rue Saint-Jean, les abords du château Frontenac et la place Royale, par exemple, des efforts sont mis pour attirer les touristes vers d'autres quartiers ou d'autres attractions comme l'île d'Orléans et la chute Montmorency. Ainsi, 72% des résidents de Cité-Limoilou, qui inclut le Vieux-Québec, considèrent comme facile la cohabitation entre touristes et résidents. Même dans le Vieux-Québec, il y a des coins qui sont sous-visités. Ce n'est pas vrai que c'est plein à craquer partout, précise Robert Mercure. Établir des parcours touristiques pour inciter les visiteurs à découvrir des trésors cachés de ce quartier fait partie des initiatives positives à mettre en place pour désengorger les lieux les plus fréquentés, selon M. Mercure. L'encadrement du tourisme à Québec se fait dans une perspective de croissance, ajoute-t-il, mais avec une bonne gestion de l'achalandage. Le port de Québec a aussi revu son objectif d'accueillir 400 000 croisiéristes chaque année dans ses installations et vise toujours environ 150 000 passagers. Rien n'est imposé, souligne Geneviève Quentin. Ce changement de cap découle de la concertation mise en place avec la ville et les résidents. Ils ont trouvé un équilibre entre la croissance, c'est important la croissance, parce que ce sont quand même des retombées économiques majeures pour le Québec, et la qualité de vie, dit-elle. Dans une volonté d'allonger et de diversifier la saison touristique, Québec accueillera aussi pour la première fois des bateaux de croisière au cours de l'hiver 2025, soulignent par ailleurs Robert Mercure et Michel Masse. La vie n'est pas rose, convient le président du CCVQ. Il y a encore des choses à corriger et à ajuster, mais on sent une volonté d'améliorer la façon dont le tourisme se fait, d'impliquer davantage les résidents et d'offrir une meilleure expérience aux touristes. Qu'en est-il de la taxe touristique aux îles de la Madeleine? Dans l'air depuis quelques années, l'idée d'une taxe de 30 $ imposée aux visiteurs des îles de la Madeleine devait s'appliquer en 2024. Or, après l'avoir officialisée, la municipalité a fait volte-face et l'a rendue volontaire. Des raisons opérationnelles ont motivé ce changement. La vérification du paiement devait être faite aux deux points de sortie de l'archipel, soit au quai d'embarquement du traversier et à l'aéroport. Comme nous n'avons pas eu l'autorisation de Transport Canada pour effectuer cette vérification à l'intérieur de l'aéroport et qu'elle ne se serait faite qu'à un seul point de sortie, le règlement a donc dû être modifié, explique Isabelle Cummings aux communications de la municipalité. Un bilan sera fait plus tard, à l'automne 2024, pour envisager la suite des choses. Vous écoutez, pour en finir avec le surtourisme, un dossier d'Alexandre Vigneault, paru le 25 août 2024 dans la presse. Des idées pour encadrer le tourisme. Le surtourisme tient principalement à une chose, il y a trop de monde au même endroit, au même moment. C'est vrai devant la Joconde de Vinci au Louvre, comme dans le centre historique de Dubrovnik en Croatie. Un peu partout, des solutions sont testées ou mises en place pour trouver un équilibre entre les besoins des résidents et ceux des visiteurs. En voici quelques-unes. Disperser les visiteurs. Pour réduire l'engorgement de son centre historique, Amsterdam cherche à disperser les visiteurs en les attirant ailleurs. La ville promène désormais les lettres géantes de sa célèbre enseigne I Amsterdam, qui créait une cohue d'amateurs d'égo-portraits devant le Rijksmuseum, dans des coins moins fréquentés de la ville pour attirer l'attention sur d'autres attractions ou des événements ponctuels. Le château Muider et la plage Zandvoort ont respectivement été rebaptisés Amsterdam Castle et Amsterdam Beach afin de signifier leur proximité avec la ville et y attirer les touristes. Imposer un ticket modérateur. Venise, symbole du tourisme de masse, a fait un test au début de la présente saison touristique. Elle a imposé un ticket d'accès à sa zone la plus courue pendant les week-ends du mois de juin jusqu'à la fin juillet. Seuls les visiteurs d'un jour devaient se procurer ce billet au coût de 5 euros, environ 7,50 $. Ceux passant au moins une nuitée dans la Sérénissime en étaient exemptés. La mesure sera réévaluée au terme de ce projet pilote. Venise a aussi limité à 25 le nombre de participants à une visite guidée. Limiter le nombre de visiteurs. Imposer une limite quotidienne de visiteurs est une mesure qui peut paraître radicale, mais que des instances gouvernementales ont jugé essentielle pour préserver des sites de haute valeur patrimoniale. Au Pérou, le nombre de visiteurs quotidiens au Machu Picchu a été fixé à 4500 en 2024 et ceux-ci doivent obligatoirement effectuer une visite guidée. Seules 500 personnes par jour peuvent accéder au site par le chemin de l'Inca au terme d'un trek de 4 jours. Barcelone limite aussi l'accès à son emblématique parc Güell, conçu par Gaudí, à 1400 visiteurs à l'heure. Réguler la location d'appartements. Louer un appartement donne l'impression d'être plus proche des gens du pays qu'on visite, et c'est souvent plus grand et moins cher qu'un hôtel, ce qui est bien pratique lorsqu'on voyage en famille. Ici, comme à l'étranger, des municipalités serrent la vis aux locations à court terme, qui contribuent à la rareté des logements pour les résidents. Luc Renaud, professeur au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, constate que c'est une arme à double tranchant. Ces mesures éloignent des visiteurs qui cherchent un contact avec la culture locale et favorisent le secteur hôtelier. Il signale que les prix des chambres ont explosé à New York depuis que la ville a interdit les locations de moins de 30 jours. Cesser la promotion du tourisme. Disant d'abord que le tourisme à Barcelone est l'histoire d'un succès, la ville reconnaît qu'il est maintenant temps de s'interroger et de débattre au sujet du volume de touristes qu'on peut accueillir dans un document envoyé à la presse. Dans la foulée d'un forum de concertation avec leurs citoyens, les autorités de Majorque, la plus grande des îles Baléares, ont quant à elles convenu de cesser de faire la promotion du tourisme et de participer aux grandes foires internationales de ce secteur. Elles vont aussi reconvertir en logements résidentiels les hôtels vétustes. Limiter son impact comme voyageur. Peut-on continuer à voyager en tenant compte des impacts du tourisme sur les communautés qu'on visite? Des spécialistes suggèrent des pistes d'action. Pensez au voisinage. Il faut se rappeler que là où on voyage, il y a des gens qui vivent, qui travaillent, qui vont à l'école, qui vont au parc avec leurs enfants, énumère Geneviève Turner, directrice pollinisatrice de Tourisme durable Québec. Ça veut dire limiter le bruit et les autres comportements qui pourraient avoir un impact négatif sur eux. Respecter les consignes, comme ne pas prendre d'échantillons de sable ou des cailloux sur une plage, et ne pas toucher quand un écriteau le commande, est aussi une façon de voyager en faisant preuve de considération pour la communauté qui nous accueille. Faire des choix éco-responsables. En planifiant son voyage, on peut opter pour des établissements hôteliers aux pratiques durables ou éco-responsables en vérifiant les certifications, dit Luc Renaud, professeur associé au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Geneviève Turner recommande de limiter sa consommation d'eau et d'avoir avec soi une trousse zéro déchet, plats pour rapporter les restes de repas au restaurant, bouteilles, ustensiles et sacs réutilisables pour faire ses courses afin de limiter sa consommation de plastique à usage unique. Sortir des sentiers trop fréquentés. Ça, c'est difficile, dit d'emblée Luc Renaud. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui va en France pour la première fois de vouloir voir Paris. Geneviève Turner invite néanmoins à éviter de faire du tourisme de type bucket list, et à se demander pourquoi on voyage. Est-ce qu'on veut aller quelque part juste pour prendre des photos et pouvoir raconter qu'on y est allé? Ou on veut connecter avec les gens? Demande-t-elle. Ralentir, étirer son séjour quand c'est possible et choisir de fréquenter des quartiers, des villes ou des régions moins prises d'assaut par les touristes sont aussi des options. Voyager hors saison. Pour ceux qui le peuvent, voyager hors des périodes les plus courues est une solution gagnante. En plus d'être économique, c'est plus apaisant et ça favorise le contact avec les locaux. Ça donne une meilleure expérience aux touristes comme aux gens de la place, dit Geneviève Turner. Luc Renault est d'accord avec le principe, mais estime qu'il faut être réaliste. L'impact de ce choix sera limité puisque la majorité des gens continueront de prendre des vacances l'été, notamment en raison des calendriers scolaires. C'était, pour en finir avec le surtourisme, un dossier d'Alexandre Vigneault, paru le 25 août 2024 dans la presse.
Projet de loi numéro 11, modifiant la loi sur les soins de fin de vie et d'autres dispositions législatives. Mémoire du Réseau international sur le processus de production du handicap, RIPPH, présenté à la Commission des relations avec les citoyens le 28 mars 2023. Un texte de Patrick Fougérolas, Lynn Beauregard, Jean-Pierre Robin et Pauline Chénoux, paru le 8 juillet 2024 dans la revue Equitas. Introduction. Précurseur au Canada en matière d'aide médicale à mourir, AMM, le Québec figure aujourd'hui parmi les sociétés qui connaissent le plus haut taux de décès par aide médicale à mourir au monde. Ce taux a atteint 7 % des décès au Québec en 2023. Au printemps 2023, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 11 sur les soins de fin de vie et la modification d'un ensemble de dispositions législatives à l'Assemblée nationale. Le PL11 prévoit d'élargir l'accès à l'AMM, jusque-là réservé aux personnes atteintes d'une maladie grave et incurable, aux personnes présentant un handicap neuromoteur grave et incurable. De plus, le critère de mort prévisible et irrémédiable à court terme ne serait plus requis pour ouvrir la possibilité de faire une demande anticipée d'AMM à la suite d'un diagnostic de maladie ou de handicap neuromoteur grave et incurable sur la base de douleurs physiques ou psychologiques anticipées ou réelles, sans que la date de fin de vie ne soit prévisible à court terme. La Commission des relations avec les citoyens de l'Assemblée nationale du Québec a procédé à une consultation publique des acteurs publics, professionnels et cliniques, communautaires et de défense des droits sur le PL11 en mars 2023. C'est dans ce cadre que le RIPPH a soumis et présenter un mémoire portant particulièrement sur les questions conceptuelles et terminologiques en lien avec le handicap et plus spécifiquement sur les enjeux et conséquences de l'introduction de la notion de handicap neuromoteur. en convergence avec les positions de plusieurs autres organisations ayant participé à ces audiences parlementaires, ce mémoire a contribué à la décision de la Commission de créer un groupe de travail sur le handicap neuromoteur auquel Patrick Fougé-Rollas a participé avec 16 autres experts au printemps 2023 au nom du RIPPH. Le mandat du groupe d'experts était de 1. Définir si possible le terme « handicap neuromoteur ». 2. Émettre un avis, à savoir si des préjudices pourraient être induits en conservant le terme « neuromoteur ». 3. Proposer et définir, au besoin, tout autre terme à utiliser pour soutenir le droit à l'autodétermination des personnes et pour éviter que le libellé ne cause préjudice. 4. Déterminer si des balises sont nécessaires à mettre en place, quel que soit le terme retenu, dans le contexte de l'élargissement de l'admissibilité aux personnes ayant un handicap et, le cas échéant, émettre des recommandations sur ces balises. Commission des relations avec les citoyens 2023. Le mémoire suivant présente la position du RIPPH et les recommandations formulées lors des audiences, ainsi que dans le cadre des travaux du groupe d'experts. Celles-ci ont majoritairement été prises en compte dans le libellé révisé par les parlementaires dans la loi 11 adoptée le 7 juin 2023 par l'Assemblée nationale du Québec. Depuis le 1er avril 2024, les Québécoises et Québécois présentant 1. Une déficience physique grave entraînant des incapacités significatives et persistantes et 2. Qui éprouvent des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables, et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu'elles jugent tolérables, sont admissibles à l'aide médicale à mourir. Assemblée nationale du Québec, 2023. Mémoire. La compréhension de la notion de handicap a beaucoup évolué depuis les 50 dernières années. Son utilisation dans le cadre du projet de loi 11 l'introduit comme une condition autre que celle de maladie et devient un critère d'admissibilité pouvant être invoqué pour faire une demande d'aide médicale à mourir. On y nomme spécifiquement le handicap neuromoteur. L'objectif de notre propos vise principalement à clarifier la définition contemporaine du handicap et à préciser la pertinence de son utilisation selon un modèle social interactif. Personne, environnement, participation sociale, tel qu'adopté en 2009 par le gouvernement du Québec avec la politique à part entière pour un véritable exercice du droit à l'égalité. Pour bien saisir les transformations historiques de la signification du handicap, il est nécessaire de les contextualiser à partir du milieu des années 1970. Ceci coïncide avec les premières mesures publiques s'adressant globalement aux personnes handicapées au Québec et à l'international. Et c'est à cette période que l'on voit l'émergence du mouvement de défense des droits des personnes handicapées et de leurs proches. D'une compréhension essentiellement biomédicale et individuelle du handicap, on est passé progressivement à un modèle social du handicap. Dans une perspective individuelle, le handicap est vu comme une caractéristique personnelle équivalente à un problème de santé, entraînant des altérations, dysfonctions ou pertes d'un système organique, appelé aussi une déficience. Celle-ci entraîne une limitation de capacité fonctionnelle, comme se mouvoir, voir, entendre, se souvenir, comprendre, s'exprimer, se comporter. Or, le modèle social va plus loin et introduit l'environnement de vie comme partie intégrante du processus de construction du handicap. Qualifié également de modèle sociopolitique, il a été développé par des universitaires ayant des incapacités et identifie les facteurs environnementaux comme source d'oppression, de discrimination et d'inégalité sociale. C'est ce modèle social qui a permis une unification du plaidoyer de personnes ayant une diversité de diagnostics, de déficiences organiques et d'incapacités par une prise de conscience des obstacles communs à l'exercice de leurs droits humains. Ce modèle est à la source d'un mouvement d'émancipation de personnes largement invisibilisées, trop longtemps institutionnalisées et prises en charge au détriment du pouvoir d'agir, du contrôle de leur vie et de la possibilité de leur autodétermination. Ce modèle social a par la suite évolué vers un modèle interactif ou systémique, réintroduisant les facteurs personnels comme aussi importants que les facteurs environnementaux dans la compréhension des déterminants de la qualité de participation sociale des personnes ayant des déficiences et incapacités significatives et persistantes. Le Québec a joué un rôle majeur dans les travaux internationaux de développement de classification des conséquences des maladies, troubles ou traumatismes pilotés par l'OMS pour la reconnaissance de l'environnement comme partie intégrante du processus handicapant. Le modèle de développement humain et de processus de production du handicap MDH-PPH et la classification internationale MDH-PPH sont le fruit de travaux de conception, d'expérimentation et de validation scientifique menés depuis les années 1990. La version actuelle de cette classification a été publiée en 2018 par le RIPPH et rayonne sur le plan international et tout particulièrement dans la francophonie. La révision de la définition de personne handicapée en vigueur au Québec a été réalisée sous la coordination de l'OPHQ sur la base du MDH-PPH et adoptée dans la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration sociale, éducative et professionnelle en 2005. Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. La définition du handicap de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, CDPH, élaborée par l'ONU, avec la participation active des organisations de personnes handicapées contrôlées par celles-ci, par et pour, est entièrement compatible avec le modèle social interactif personne-environnement et le MDH-PPH. adoptée par l'ONU en 2006, la CDPH a été ratifiée par le Canada et le Québec en 2010. Cette législation internationale est contraignante pour les États parties l'ayant ratifiée. Un suivi périodique de la mise en œuvre de la CDPH est réalisé par l'ONU aux 4 ans. Reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Rappelons que le MDH-PPH est le modèle conceptuel adopté par l'Assemblée nationale et le gouvernement du Québec avec la politique à part entière en 2009, et il sert de cadre de référence au suivi de sa mise en œuvre gouvernementale. Selon le MDH-PPH, le handicap n'est pas simplement lié à des caractéristiques personnelles. Le handicap est le résultat de l'interaction continue entre des facteurs personnels, déficience des systèmes organiques, capacité et incapacité, caractéristiques identitaires, et des facteurs environnementaux présents dans le contexte de vie réel pour réaliser les habitudes de vie, activités courantes et rôles sociaux valorisés par la personne. La qualité de la participation sociale est donc toujours situationnelle et évolutive dans le temps. Une situation de handicap est une restriction de réalisation des activités courantes ou rôles sociaux. Vous écoutez projet de loi numéro 11 modifiant la loi sur les soins de fin de vie et d'autres dispositions législatives. Mémoire du Réseau international sur le processus de production du handicap, RIPPH, présenté à la Commission des relations avec les citoyens le 28 mars 2023. Un texte de Patrick Fougé-Rolas, Lynn Beauregard, Jean-Pierre Robin et Pauline Chénoux, paru le 8 juillet 2024 dans la revue Équitas. Recommandation. Pour aborder la question très sensible de l'introduction de la notion de handicap neuromoteur du projet de loi ou encore de handicap tel que déjà présent dans le Code criminel fédéral, nous faisons les recommandations suivantes. 1. Référer au MDH-PPH et à la classification internationale MDH-PPH pour bien distinguer les problèmes de santé avec leurs diagnostics médicaux tels qu'ils sont répertoriés dans la classification internationale des maladies, CIM, de l'OMS, par rapport à leurs manifestations sur les plans des systèmes organiques, anatomie, physiologie, des aptitudes fonctionnelles et de la réalisation des habitudes de vie valorisées par la personne dans son milieu de vie. 2. Exclure tout qualificatif spécifiant le handicap comme affectant certains systèmes organiques et aptitudes fonctionnelles sur le mode de handicap neuromoteur ou encore de handicap visuel, handicap auditif, handicap intellectuel ou handicap psychique. Ceci serait particulièrement dommageable et confondant compte tenu des efforts soutenus d'harmonisation terminologique en cours depuis plusieurs décennies. La formulation appropriée correspondant à l'intention initiale du législateur est de parler de déficience neuromotrice. Étant entendu que ces déficiences entraînent une ou plusieurs incapacités fonctionnelles ou comportementales. Il n'est pas approprié de déduire de diagnostics médicaux, dans une relation de cause à effet systématique, leurs conséquences et manifestations sur les plans organiques, fonctionnels et situations de participation sociale ou situation de handicap. Une situation de handicap ne peut pas non plus être qualifiée de motrice, intellectuelle, psychique, puisqu'elle réfère à une mesure de la qualité de participation sociale ou d'exercice des droits pour chaque personne dans son contexte de vie. Toutes les maladies, troubles ou traumatismes peuvent se décliner pour une personne en termes de déficience, capacité et incapacité, et situation de handicap, qu'elle soit permanente, persistante, cyclique ou épisodique. 3. Utiliser la définition légale de personne handicapée dans le respect de la clause d'impact du projet de loi 11 dans le champ du handicap. Celle-ci est cohérente avec la définition de la Convention de l'ONU, CDPH, et la classification internationale MDH-PPH. 4. Examiner la possibilité de ne pas référer au terme « handicap » et plutôt lui substituer celui de « déficiences et incapacités graves et incurables ». 5. Offrir une sensibilisation, formation de base aux praticiens de l'AAM sur la compréhension contemporaine et sociale du handicap, tel que défini dans le MDH-PPH et la classification internationale MDH-PPH. Impact des facteurs identitaires dans la construction sociale du handicap. En accord avec la littérature scientifique en études sociales du handicap, la classification internationale MDH-PPH a introduit pour la première fois sur le plan international une nomenclature des facteurs identitaires en complément de celle des facteurs environnementaux. La souffrance liée à ces caractéristiques identitaires et aux facteurs externes de son environnement urbain, social et matériel sont susceptibles d'exacerber le caractère intolérable de celle-ci et influencer la volonté de mourir. 6. Considérer dans l'évaluation sociale de l'admissibilité l'intersection des facteurs identitaires avec les déficiences et les incapacités d'une part et d'autre part la qualité de l'accès aux leviers environnementaux, par exemple, accès inclusif aux soins, soutien à domicile, habitat, assistance et accompagnement, technologie, etc., répondant aux besoins spécifiques de la personne. Sur un mode anticipé d'une demande d'aide à mourir, l'appréhension des souffrances associées à l'acquisition de déficiences et incapacités sévères est fortement influencée par les stéréotypes, préjugés et représentations sociales négatives ou tragiques. La perte de signification de la vie et de sa valeur, la crainte de la dépendance et du fardeau associé pour les proches et la société ne se révèle pas obligatoirement confirmé lorsque la personne a réellement vécu l'expérience du processus handicapant. C'est le sens qu'il faut donner à la notion de handicap évolutif, telle qu'affirmée par la Convention de l'ONU, ratifiée par le Québec. Le caractère singulier est situé dans le temps, ainsi que le contexte social de la dynamique interactive, personne, environnement, habitude de vie, suggère un principe d'incertitude sur l'évolution et l'adaptabilité du point de vue subjectif de la personne et le pronostic de souffrance insupportable. 7. Offrir la possibilité d'intégrer dans les processus d'analyse de la demande un pair expert ayant un savoir expérientiel pertinent pouvant éclairer la situation anticipée par la personne. Conclusion. Nous tenons à saluer le courage du législateur d'appuyer ce projet sur la reconnaissance de l'autodétermination pour toutes et tous. C'est un principe central du plaidoyer du mouvement de défense des droits des personnes en situation de handicap, de la CDPH et de la politique québécoise à part entière. Par ce mémoire, nous avons voulu montrer l'importance des terminologies choisies, tout particulièrement sur la base des connaissances scientifiques développées sur la compréhension du phénomène social du handicap. Le RIPPH offre sa collaboration pour les travaux à venir selon les besoins de la Commission. C'était projet de loi numéro 11 modifiant la loi sur les soins de vie et d'autres dispositions législatives. Mémoire du Réseau international sur le processus de production du handicap, RIPPH, présenté à la Commission des relations avec les citoyens le 28 mars 2023. Un texte de Patrick Fougé-Rollas, Lynn Beauregard, Jean-Pierre Robin et Pauline Chénoux, paru le 8 juillet 2024 dans la revue Équitas.